Et je passe tout de suite la parole à Valérie pour nous parler de cet immense projet qu'elle a mené à bien.
Merci beaucoup, Sarah. Alors, avant de présenter ce magnifique volume qui sort vraiment des presses, hein, puisqu'il est arrivé hier soir chez Roger. Donc, avant de vous présenter cet ouvrage « Action humanitaire et quête de la paix », j'aimerais tout d'abord rendre hommage à la Fondation Gustave Adore qui a pris l'initiative d'organiser un colloque scientifique international en juin 2017 à l'occasion justement du centenaire de l'attribution du prix Nobel de la paix au CICR, alors que Gustave Adore, dont si vous allez pouvoir ouvrir, hein, on voit les magnifiques regards de Gustave Adore à l'intérieur, vous verrez mieux après. Donc alors Gustave Adore est son président et en 1917 il vient d'être nommé conseiller fédéral. Et surtout qu'il a concouru à créer l'Agence internationale des prisonniers de guerre en 1914, une des raisons de ce prix. Donc ce colloque a débouché sur ces actes qui réunissent les contributions de 26 auteurs, des historiens et des historiennes, non seulement de Genève, mais également de Suisse romande, de Suisse alémanique, mais également de France, de Belgique, d'Autriche, du Royaume-Uni et même des États-Unis. Non seulement des historiens et des historiennes, mais également en philosophe du droit. Et nous avons deux personnalités, le président du CICR qui avait fait une conférence et dont nous avons là sa contribution, Peter Maurer, ainsi qu'un message de François Longchamp, qui était alors le président du Conseil d'État. De ce fait, parmi ces 26 contributions, 4 sont écrites en anglais. Ces actes ont été édités par un comité composé non seulement de Roger Durand, mais également de Françoise Dubesson, qui est juste derrière, d'Irène Herman ici présente, et de Daniel Palmieri. Et évidemment de François Bugnon. Je ne vais pas oublier, évidemment. Et donc c'est ce comité que j'ai aujourd'hui l'honneur de représenter. Et nous avons fait ce travail dans le cadre d'une coédition entre la Fondation Gustave Adore et la maison d'édition Georg. Et je remercie infiniment une institution genevoise et son président, ici présent, qui a généreusement soutenu tout ce processus éditorial. Donc, à l'origine, le prix Nobel décerné au CICR en 1917. Cette distinction interpelle à plusieurs titres. Nous sommes en effet en pleine guerre mondiale. Aucun prix Nobel de la paix a été décerné depuis le début des hostilités. Il faudra d'ailleurs attendre 1919 pour qu'à nouveau un prix Nobel soit décerné, en l'occurrence à Wilson. Nous sommes à un moment donné de la guerre où elle se renforce avec l'entrée en guerre des États-Unis. À ce moment, aucun signe entre les belligérants n'apparaît en vue d'une éventuelle paix. Toutes les tentatives d'appel à la paix ont été discréditées, notamment les tentatives du pape. La voix des pacifistes est entièrement inaudible. On les traite même très souvent de défaitistes. Et pourtant, le comité Nobel attribue ce prix, mais il faut l'avouer, ce prix passe inaperçu, autant dans le milieu des pacifistes qu'au sein du CICR qui, il faut l'avouer, encaisse l'argent sans commentaire et sans se déplacer à Stockholm. Bon, sur ce dernier point, on peut comprendre que vu la situation de l'Europe, ils ont évité de faire le voyage. Par ailleurs, l'attribution de ce prix en 1917, se fait sur des critères qui remettent en question la lecture des conditions originales du prix. Ce prix Nobel de la paix au CICR ne correspond absolument pas à un des critères qui est la suppression ou la réduction des armées permanentes. On ne peut pas voir non plus un autre critère qui est la réunion ou la propagation des congrès de la paix. C'est donc sur le dernier critère du comité Nobel que cette attribution s'est faite, à savoir le critère de la fraternité entre les nations. Donc c'est cette fraternité entre les nations qui a joué, et il faut même dire qu'il a fallu une interprétation assez large justement pour attribuer ce prix au CICR. Puisque cela a permis à une organisation nullement pacifiste à obtenir justement le prix Nobel de la paix. Dans l'histoire du prix Nobel de la paix, cette attribution dont l'exemplarité est a posteriori accentuée par la guerre correspond à un tournant. Puisque désormais le prix Nobel est attribué autant à des pacifistes et à des acteurs du processus de la paix que, justement, dans une interprétation plus large de la fraternité entre les nations, à des personnalités et à des organisations actives dans l'humanitaire, dans les droits de l'homme, de la justice sociale et plus récemment dans les droits des femmes, dans le droit des enfants, contre les inégalités sociales et même, on l'a vu, contre le dérèglement climatique. Par ailleurs, cette attribution en 1917 cristallise autant cette interprétation assez récurrente mais totalement hâtive qui dit que si le CICR a reçu le prix Nobel de la paix, alors le CICR et ainsi l'ensemble des humanitaires œuvrent pour la paix, ou bien évidemment son contraire, à savoir que cette fameuse critique qui accuse les humanitaires de se nourrir des hostilités, voire même de les prolonger. Donc nous avons voulu mieux comprendre cette attribution, ces conditions, ces raisons et surtout dépasser ces interprétations et ces critiques hâtives et récurrentes. Et pour ce faire, nous avons bâti notre problématique du colloque et donc également des actes et de ce volume autour de l'articulation entre l'action humanitaire et la quête de la paix en examinant la représentation de la paix, voire sa quête, par les acteurs humanitaires et en analysant le regard des milieux pacifistes sur l'action humanitaire. En parlant justement d'action humanitaire, nous n'avons pas voulu nous cantonner au CICR, mais à l'ensemble des humanitaires de l'époque et également aborder des acteurs sociaux, des acteurs politiques. De même, pour les pacifistes, nous avons aussi élargi en essayant de regarder aussi les milieux littéraires, intellectuels, culturels, religieux, plus ou moins proches des milieux pacifistes. Nous ne nous sommes pas cantonnés à Genève, mais nous avons aussi élargi pour aborder la Suisse et également l'étranger. Donc, ainsi, dans une première partie, on pourrait dire une partie introductive, nous avons retracé l'histoire du défi apporté à une organisation telle que le CICR de l'articulation entre l'action humanitaire et la quête de la paix. Puis nous avons examiné les conditions de l'attribution du prix Nobel de la paix, les raisons qui ont poussé le comité Nobel à décerner ce prix Nobel à une organisation nullement pacifiste. Alors qu'en 1915, le prix Nobel de la littérature avait été décerné à un écrivain pacifiste, Romain Rolland, qui avait d'ailleurs, qui a ensuite travaillé justement au sein de l'Agence internationale des prisonniers de guerre à Genève. Il a claqué la porte de cette agence, c'est encore une autre histoire. Donc cette première partie de ce volume s'interroge s'interroge également sur les critères d'attribution du prix Nobel, enfin l'ensemble des prix Nobel, et justement cette ambiguïté originelle de l'argumentaire d'Alfred Nobel qu'il a élaboré grâce aux discussions avec Bertha von Suttner, la grande pacifiste autrichienne, auteure de l'ouvrage Bas les armes, qui est d'ailleurs la première femme qui a reçu le prix Nobel de la paix. Puis, dans une seconde partie, nous avons plusieurs chapitres qui examinent l'action du CICR, de son agence internationale pour les prisonniers de guerre, de sa section civile, dont les œuvres sont véritablement à l'origine de ce prix Nobel de 1917. Et c'est l'occasion justement de mieux connaître l'action et les multiples facettes de plusieurs personnages du CICR et de l'Agence internationale pour les prisonniers de guerre. Évidemment, Gustave Ador, mais également Frédéric Ferrière, qui est donc à l'origine de la section civile, Marguerite Kramer, et également de nouveau Romain Rolland, puisque c'est un des collaborateurs de l'agence, et donc d'étudier plus en profondeur l'agence internationale, notamment avec votre contribution. La troisième partie de l'ouvrage analyse au niveau suisse l'analyse des relations intenses entre la Confédération et le CICR. Donc ça, je vais passer un peu très rapidement là-dessus, puisque Cédric en parlera plus largement, je pense, par le biais de son ouvrage. Mais également avec la Croix-Rouge suisse, avec également les milieux politiques, les milieux financiers, les milieux économiques, et plus particulièrement avec le secteur hôtelier qui a cherché, avec l'accueil des internés, une compensation au déclin touristique de la Suisse. La quatrième partie de l'ouvrage élargit l'horizon d'analyse en traitant le travail et le positionnement de l'agence avec ses correspondants à l'étranger, notamment en France, en Belgique, avec le travail des Croix-Rouges nationales, également la Croix-Rouge américaine, mais également avec le travail de l'agence, donc tous ces liens avec, comme je vous l'ai dit, surtout la France, la Belgique, les États-Unis, mais également en étudiant d'autres organisations et institutions humanitaires, notamment britanniques, agissant auprès des empires centraux, ou bien agissant en Belgique et en France du Nord avec la commission von Holleuf in Belgium, qui a été, dont le fondateur Herbert Hoover, le futur président des États-Unis, personnifie à merveille le couple action humanitaire et quête de la paix. Et donc Hoover me permet de me faire une transition avec la dernière partie de l'ouvrage, puisque pour chez Hoover, son action humanitaire est motivée par sa foi quakérienne, c'était un quaker, et donc c'est sa foi religieuse qui motive son action humanitaire. Donc ça me permet d'introduire justement cette dernière partie de cet ouvrage qui traite les milieux religieux, protestants et catholiques, qui se sont donc impliqués dans la quête de la paix, avec notamment l'action des unions chrétiennes de jeunes gens, mais également l'action dans catholique, Marc Sangnier, le fondateur du Sillon, donc le père du catholicisme social, qui font donc preuve, comme ouvert, d'une corrélation entre foi, action humanitaire et quête de la paix. De la paix, mais également d'autres institutions pacifistes comme la dotation Carnegie de la paix qui a agi en Europe, et également des écrivains, des intellectuels, donc de nouveau évidemment Romain Rolland, ainsi que Stefan Zweig, également pour Thalès, et d'autres écrivains qui ont également été médecins et qui ont, pendant la Première Guerre mondiale, et qui ont eu un regard particulier justement sur cette problématique, notamment Georges Duhamel, Luc Durtin, Élie Faure. Et donc tout ceci nous permet de voilà, d'avoir des pistes de compréhension pour résoudre justement cette imbrication entre l'action humanitaire et la quête de la paix et cette double représentation. Donc, en définitive, et je vais m'arrêter là, je dirais que donc, parce que je ne veux évidemment pas entrer dans les détails de ces nombreuses études extrêmement fouillées, et que je ne peux que vous inviter à lire toutes ces passionnantes études, mais en revanche, j'aimerais juste terminer avec peut-être un petit élément qui permettra peut-être de nourrir un petit peu notre discussion à la fin de ces présentations. C'est que finalement, est-ce que vous pensez bien que ce livre, je l'ai lu, relu et re-relu. Donc il reste quand même, il y a quand même un fil rouge, je trouve, dans tout son livre. Il y a plusieurs fils rouges, à vrai dire. Mais il y en a un qui est ce silence généralisé. Qui a accueilli en 1917 cette attribution du prix Nobel de la paix au CICR, alors qu'aujourd'hui, ce prix Nobel de 1917 est vraiment le symbole de cette nouvelle donne dans l'histoire du prix Nobel de la paix, mais également dans cette histoire des relations plus qu'ambiguës et compliquées entre action humanitaire et quête de la paix. Merci, je vous remercie. Thank you.